Marseille, 2013. Marseille Sud-Est, une émission dans la thématique Marseille 2013, une thématique réalisée en partenariat avec le journal de la Friche. Après Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004, pour ne citer que les villes françaises, Marseille est candidate pour l'obtention du label de capitale culturelle de l'Europe en 2013. Une candidature pour laquelle elle est en compétition avec d'autres villes. Vous avez pu entendre hier et cet après-midi s'exprimer les représentants de Lyon, Nice, Saint-Étienne et Toulouse sur les arguments de leurs candidatures respectives. On va maintenant donner la parole au projet de la cité phocéenne et de sa région, un projet porté par l'association Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, dont quelques représentants sont avec moi sur ce plateau. Tout d'abord Bernard Latarget, coordinateur des débats et propositions pour la constitution de ce dossier de candidature. Je rappelle que votre parcours vous a mené de la Cinémathèque à l'établissement public du Parc de la Villette à Paris, en passant par plusieurs missions de conseil auprès du ministère de la Culture et du président de la République. Avec vous, pour évoquer le contenu du projet Marseille-Provence 2013, Bertrand Colette, qui a dirigé récemment l'ensemble des manifestations de portée internationale autour de l'année Paul Cézanne, réunie sous l'intitulé Cézanne 2006. Et puis Ferdinand Richard, directeur de l'AMI, l'aide aux musiques innovatrices qui mène de très nombreux programmes d'échange et de création en Europe et bien au-delà. Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau, sur lequel, je le précise, était aussi convié Serge Bottet, directeur des affaires culturelles de la ville de Marseille, mais qui est retenu et ne peut être des nôtres. Enfin, au cours de cette émission, nous aurons aussi l'occasion d'un court entretien téléphonique avec Michel Peraldi, sociologue, co-auteur avec Michel Sanson d'un récent best-seller intitulé « Gouverner Marseille ». Il nous parlera depuis la ville de Rabat, où il réside, Rabat au Maroc. Voilà pour les présentations. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un point rapide sur l'échéancier de cette candidature. Qu'est-ce qui est en cours? Quels sont les prochains rendez-vous, les prochains jalons jusqu'à l'échéance de 2013? Sur cette question, Bernard Latarget.
Alors le premier calendrier est celui de la sélection parmi les villes candidates de la ville qui sera retenue. Cette sélection va intervenir au cours de l'été 2008. Elle sera précédée d'une présélection qui devrait intervenir à la fin de l'année 2007 ou tout début de 2008 et qui retiendra donc à partir de toutes les villes françaises candidates ce qu'on appelle une shortlist. Nous avons donc deux étapes successives, une première étape fin de l'année 2007 au plus tard et une deuxième étape fin du premier semestre, début du second semestre 2008. La première étape et la deuxième étape sont jugées par le même jury composé de 13 experts, 7 étrangers et 6 français. La première étape, donc, le jury propose au gouvernement français qui élabore sa shortlist. Et la deuxième étape, la décision finale revient au Conseil de l'Europe, enfin Conseil des ministres de l'Union européenne, toujours sur proposition du même jury. Donc notre calendrier est très serré puisque à la fin de l'année, c'est-à-dire finalement pour le début de l'automne, il faut que nous soyons prêts à présenter le premier projet de candidature. Nous avons commencé à travailler au début du mois de janvier. La première étape de ce travail a consisté à rassembler, à mobiliser et à faire travailler en commun le plus grand nombre possible d'acteurs de ce territoire, qui sont au premier rang, bien sûr, les acteurs artistiques et culturels, mais aussi les acteurs du monde économique, les acteurs du monde associatif, les acteurs du monde universitaire et scientifique. D'abord parce que c'est eux qui seront finalement, si la candidature est retenue, les responsables à travers leurs fonctions, leurs outils, leurs équipements, leurs équipes respectives de la mise en œuvre de ce projet. Et puis aussi tout simplement parce qu'il y a ici un foisonnement tout à fait exceptionnel de lieux, d'équipes, d'institutions, de projets, de programmes, et qu'il faut essayer de profiter de cette richesse, de cette fécondité, de cette diversité pour nourrir un projet qui doit évidemment éviter d'être plaqué de l'extérieur, justement, sur un tissu qui est riche et qui n'attend que cet élément supplémentaire de mobilisation, de croissance, de développement de sa capacité de reconnaissance internationale. Donc une première étape de travail collectif par les acteurs qui va déboucher, qui va se terminer d'ici la fin du mois de juin, mais sans attendre la fin du mois de juin, commence une seconde étape qui est une étape également de travail collectif, mais en formation plus restreinte, non plus sur les grands thèmes de la candidature, mais sur déjà des lignes de projet, des lignes de proposition ou des stratégies qui sont indispensables à la crédibilité du projet, la stratégie financière, la stratégie de communication, la stratégie de mobilisation, la mobilisation publique, etc., sur lesquelles donc nous commençons. Donc nous poursuivons ce travail collectif de rassemblement d'idées, de projets, de matières un peu tous azimuts. Et puis, à partir d'un premier tri de cette matière très, très riche, nous organisons un travail déjà de préfiguration de ligne de projet. La troisième étape, ça sera vraiment l'étape de mise en forme, l'étape de rédaction. Alors, bien sûr, en même temps qu'il y a ce travail de conception et de construction de la candidature, il y a aussi un travail de rassemblement des responsables politiques du territoire de la candidature. Comme vous l'avez dit en introduction, c'est pas seulement Marseille, c'est Marseille et les communautés de communes environnantes du département des Bouches-du-Rhône, auxquelles s'ajoute l'agglomération toulonnaise. Il faut donc accorder l'ensemble des élus de ces collectivités territoriales sur les objectifs, sur les grands axes du projet, sur les modalités de sa mise en œuvre et notamment de son financement. Donc l'association que vous évoquiez rassemble ces élus pour assurer, j'allais dire, le pilotage politique au sens le plus fort du terme de ce projet.
Eh bien, croisons les doigts et souhaitons que, évidemment, ce projet reçoive une heureuse destinée. Vous venez de l'évoquer, Bernard Latarget, cette candidature, c'est non seulement celle de Marseille Intramuros, mais c'est aussi celle de Marseille-Provence. C'est celle du Sud-Est. Sud-Est, c'est le titre de cette émission. On va tout à l'heure aller au Sud. On ira aussi sur une transversale vers l'Est, mais pour l'instant, restons un peu sur cette région Sud-Est. Bertrand Colette, comment s'articule justement cette candidature de la ville avec ces villes environnantes? D'abord, quelles villes sont partenaires de Marseille et comment s'opère cette articulation?
Alors, les textes de l'Europe disent que c'est une ville qui est candidate et qui peut décrocher le label européen. Donc là-dessus, c'est clairement Marseille qui est candidate européenne. Simplement, il est dit aussi que l'Europe souhaite que soit associé à ces grandes métropoles tout un territoire. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Luxembourg, qui est capitale européenne et qui a associé ce qui s'appelle la Grande Région, qui va jusqu'à certaines régions françaises, et puis Essen en 2010, qui a associé toute la Ruhr au projet. Donc là, nous, on a travaillé sur un territoire qui est, disons, le projet métropolitain marseillais, qui est constitué de sept agglomérations du projet métropolitain auquel s'adjoint Toulon et son agglomération. Alors c'est un territoire qui a une cohérence, disons, historique et culturelle, qui va pas jusqu'à Nice, hein, parce que quand on parle du Grand Sud-Est,
donc, concurrente.
C'est concurrent, puisqu'il était question à un moment donné de s'associer à Nice et chacun finalement dépose sa candidature de son côté et quand on voit déjà la complexité de rassembler un territoire de cette dimension-là, c'est pas quelque chose qu'on regrette. Par contre, c'est un travail considérable, effectivement, que de rassembler tous ces acteurs. La région et le département nous ont déjà donné leur soutien, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant membres de l'association. Et on travaille avec les 7 agglomérations, donc ça va de Arles à Toulon. On a déjà un certain nombre de villes d'agglomérations qui ont donné leur accord. Et on travaille avec d'autres, d'autres en particulier Comex, qui ont mis un certain nombre de conditions pour rentrer dans l'association et avec qui on définit les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on a fait une proposition de charte dans laquelle on propose les règles du jeu concernant la communication, les finances, toutes les modalités d'association des acteurs culturels. Et c'est de cette façon-là qu'on espère sortir de certains clivages, quelquefois historiques, dont on se dit que c'est peut-être une opportunité historique que de faire évoluer les choses.
Effectivement, dépasser quelques particularismes, on parlait d'Aix tout à l'heure, il y a une rivalité très ancienne entre Aix et Marseille, j'espère qu'elle pourra trouver à se résorber. Une relation aussi peut-être un peu complexe à articuler, c'est celle entre Marseille et sa banlieue, avec les villes de périphérie. Comment est-ce que la banlieue marseillaise sera associée à l'agglomération pour ce projet, Bernard Latarget?
Tout d'abord, La banlieue fait partie intégrante du territoire de la candidature. Il n'y a pas de traitement géographique particulier à ce territoire. C'est les projets qui détermineront le programme. C'est pas des considérations purement géographiques. D'autant que à Marseille. Moi qui ne suis pas marseillais, mais qui commence à vivre vraiment à Marseille, je sais bien que le centre et la périphérie, ce n'est pas la même chose. Mais je sais aussi que Marseille est une des villes où il est plus difficile justement de trouver exactement où est le centre et ce qu'il est, et où est la périphérie et la banlieue, et où elle est. On a ici une situation de vrai mélange, en tout cas, d'une ségrégation géographique traduisant une ségrégation économique et sociale qui sévit partout ailleurs et qui sévit beaucoup moins à Marseille que dans beaucoup d'autres grandes métropoles. Alors, cela dit, un des grands axes du projet de candidature sera justement celui de l'articulation entre des projets artistiques et culturels et l'ensemble des propositions de rénovation urbaine, non seulement au sens de l'urbanisme, mais au sens de la vie économique et sociale de la cité dans son ensemble.
Y compris en matière de transport ?
Je l'espère. Je ne suis pas maître de la politique des transports de l'agglomération marseillaise, mais il est clair que si la Marseille-Provence est retenue comme capitale européenne, il faudra trouver sur l'ensemble des questions d'infrastructure, d'accueil, de circulation, de transport, notamment pendant les périodes nocturnes et aux horaires de spectacle, il faudra trouver des conditions d'accessibilité, de circulation, mais aussi des conditions d'hébergement, des conditions de logement qui soient adaptées. Lille, c'est 9 millions de visiteurs. Ici, ça sera sans doute potentiellement beaucoup plus. Donc, il y a bien sûr des questions d'infrastructure. Mais pour revenir au quartier, j'insiste, la dimension territoriale, l'ancrage des projets dans la réalité de la diversité territoriale et sociale de ce territoire sera l'une des dimensions importantes du projet. À travers notamment toutes les associations, toutes les institutions, y compris les grandes institutions publiques de l'éducation nationale, qui agissent dans ce sens.
On va, si vous le voulez bien maintenant, prendre la direction du sud, comment Marseille, capitale européenne, peut animer ou ranimer un dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. Et pour se mettre dans l'ambiance, on écoute quelques secondes de son avec le groupe Mazaher, une récente découverte du festival Babel Med.
يا فارس بغداد يا جيلاني يا فارس بغداد يا جيلاني ملكت إنساني ملال نظرة. هم صلي على سيدنا
Sud, les Suds, c'est une évidence culturelle, sociologique, historique, un tropisme si évident d'ailleurs qu'il tient parfois de la tarte à la crème, triste tropisme pourrait-on dire, pour paraphraser Claude Lévi-Strauss. Comment Marseille pourrait-elle être utile à réactiver le dialogue Nord-Sud, à donner un sens au terme Euro-Méditerranée, autrement que de manière formelle? On a souhaité poser cette question à Michel Peraldi, sociologue, spécialiste des questions tenant aux migrations, un entretien téléphonique réalisé par Caroline Galmo. On l'écoute.
Michel Peraldi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cette invitation pour une petite interview entre Marseille et le Maroc. Justement, on va parler des échanges méditerranéens entre la capitale, la cité phocéenne et les pays du Maghreb, puisque la candidature de Marseille à la capitale culturelle en 2013 peut éventuellement, peut-être, en tout cas c'est une question, réactiver les liens avec le pourtour méditerranéen, lien historique qu'a connu Marseille depuis très très longtemps et qui, il me semble, depuis 1995, ont été abandonnés quoi, depuis Barcelone et son échec.
Alors d'abord, sans vouloir être trop ironique sur la chose, une simple candidature ne peut pas changer les choses. Ce qui peut changer les choses, c'est que Marseille soit lauréat de ville culturelle, ça oui. Mais la candidature, non, on peut probablement pas changer les choses. Maintenant, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les liens de Marseille dans son réseau méditerranéen ont toujours été des liens qui ont été fondés sur une économie et sur l'intensité des échanges économiques avec ses voisins européens. Aujourd'hui, à ma connaissance, des échanges économiques, il n'y en a plus. Avec les voisins méditerranéens. Non seulement il n'y en a plus, mais il y en a de moins en moins. Et Marseille est devenue une sorte de cul-de-sac économique, vu en tout cas de la région méditerranéenne. Donc je ne crois pas de ce point de vue-là qu'une candidature puisse changer quoi que ce soit, parce que même si la culture aujourd'hui fait vivre un certain nombre de gens et peut produire des effets économiques, à mon avis, ça ne permet pas de reconstituer des réseaux et de tisser des réseaux. Maintenant, dire que ça peut aider à restructurer des liens à l'intérieur d'un certain nombre de milieux culturels, oui. Et moi, alors là, pour le coup, je serais ravi qu'effectivement un certain nombre de gens trouvent là l'occasion de, non pas de renouer les réseaux, parce que les réseaux existent, mais trouvent là l'occasion de dynamiser les relations d'échange. Mais moi, je connais plein d'artistes, d'intellectuels, de gens qui vivent, travaillent à Marseille dans le domaine culturel et qui n'ont pas attendu que Marseille soit candidate pour développer des réseaux, tisser des liens et travailler avec les gens de l'autre rive ou des partenaires méditerranéens, quoi. Mmh. Donc là-dessus, je réponds non. Pour répondre de façon précise, je réponds non de deux façons, en disant non parce qu'il n'y a pas de substrat économique aux relations avec la Méditerranée, et non parce que, encore une fois, un certain nombre de gens n'ont pas attendu que Marseille soit candidate pour nouer des liens, tisser des liens et se débrouiller comme ils pouvaient, parfois de manière très artisanale, pour travailler avec les pays de la Méditerranée.
Donc tu ne penses pas non plus, j'imagine, que cette candidature, ou au cas où Marseille devienne capitale culturelle 2013, ça réouvre un petit peu les portes vers l'Orient, vers l'Asie
Sérieusement, non. Enfin, je veux dire, encore une fois, je crois que les gens qui ont voulu le faire parce qu'ils pensaient qu'il fallait le faire et que c'était pour eux une occasion artistique ou culturelle, ils l'ont fait. Je veux dire, du côté de... je participais l'autre jour à une émission qui s'appelle TV5, qui se passe à Marseille, à La Friche. C'est une émission à dimension méditerranéenne. Je travaille parfois avec des gens du théâtre de rue qui s'appelle Générique Vapeur, qui viennent très souvent au Maroc travailler, etc. Donc, des gens, quelqu'un comme un intellectuel comme Thierry Fabre à la MMSA, c'est quelqu'un qui a une dimension méditerranéenne. Donc franchement, la Pensée de Midi, la revue que gère Thierry Fabre, sont des objets méditerranéens et tournés vers l'autre rive de la Méditerranée. Donc encore une fois, on n'a pas eu besoin que Marseille soit candidate pour faire ce genre de choses. Heureusement, j'allais dire. Là où on peut penser que les choses changent un peu, mais où on peut être un peu critique, un peu sur notre faim, c'est qu'effectivement, les institutions culturelles marseillaises, et je fais la différence entre les institutions et les acteurs, les institutions culturelles marseillaises, dans ces 10 dernières années, se sont quand même singulièrement rabougries sur le local, quoi. Alors si, effectivement, la candidature donne aux institutions l'occasion de se réouvrir un peu sur l'ailleurs et sur l'ailleurs méditerranéen, tant mieux si ça donne cette bouffée d'air. Mais j'aurais tendance à penser que si elles se sont rabougries sur le local, c'est pas simplement un effet de nature, c'est aussi qu'il y avait peut-être tout simplement derrière des stratégies, des intentions, des volontés, quoi.
Est-ce que je peux te demander ton point de vue depuis ton emplacement, puisque tu habites aujourd'hui Rabat au Maroc? Est-ce que là-bas, la candidature de Marseille à la capitale culturelle est discutée? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un enjeu pour la ville et pour le Maroc peut-être?
Alors là-dessus, encore une fois, je m'excuse par avance d'être aussi cinglant, mais moi, si je n'étais pas passé par hasard à Marseille il y a un mois de ça, je n'aurais jamais entendu parler de cette candidature. Et par contre, ici, on est beaucoup plus intéressé par la candidature de Tanger, qui est une candidature pour l'organisation de l'exposition universelle en 2012, et qui mobilise beaucoup plus les attentions au Maroc que les relations avec Marseille. Vu du Maroc, Marseille n'existe pas.
Vu du Maroc,
Marseille n'existe que vu de Tanger. Je précise bien les différences. Hein. Mmh. Rabat est la capitale du Maroc. On est au Maroc, on est au cœur, on est dans la capitale du pays. Donc, et là, de ce point de vue-là, les relations avec Marseille et la Méditerranée sont très très lointaines. C'est pas un reproche que je fais à Marseille ou Marseillais en disant ça. C'est une construction historique. Mmh. En revanche, vu de Tanger, on voit beaucoup plus Marseille parce que le conseil régional PACA est très présent, parce que etc. Quoi, voilà.
Merci Michel Peraldi.
Doré.
De nombreux clivages, donc, de nombreuses méconnaissances encore. Peut-être une réaction pour compléter, Bernard Latarjé.
Peraldi dit deux choses qui sont justes. Il dit qu'historiquement, la dimension euro-méditerranéenne de Marseille, c'était les échanges commerciaux. Et qu'il y a de moins en moins d'échanges commerciaux, donc il y a de moins en moins de coopération euro-méditerranéenne via Marseille, bien sûr. Il dit aussi qu'heureusement que les acteurs culturels n'ont pas attendu le projet de capitale pour Noé et Ferdinand Richard, ici présent, en est une illustration exemplaire, nouer des liens et partager des projets avec ces pays. C'est tout à fait vrai. C'est pas une raison pour se satisfaire de l'existant et de ne pas profiter de circonstances exceptionnelles qui permettent justement, par rapport à ces difficultés, réduction des échanges et difficultés des acteurs en dépit de leur volonté de donner toute l'ampleur qu'ils souhaiteraient à ces projets de coopération, profiter pour justement apporter un plus. Sur l'économie, sur le fondement économique de l'euro-méditerranée, les échanges quand l'économie, quand Marseille devient un cul-de-sac économique, il n'y a plus d'euro-méditerranée, apporter un bémol. Le bémol, c'est les problèmes que pose aujourd'hui l'évolution de la Méditerranée à l'Europe sont des problèmes dont la dimension culturelle est de plus en plus importante. Bon. Quand Reffers publie une étude d'économistes sur le marché du travail dans les pays de la Méditerranée du Sud, dont il ressort que le principal frein à la fluidité de ce marché, c'est la situation des femmes dans ces pays, c'est un problème dont la dimension culturelle est incontestable. Les problèmes aujourd'hui de la migration, de l'évolution de nos villes en Europe, de la cohabitation de communautés d'origine différente et de cultures différentes, de lutte contre le communautarisme culturel et pour le dialogue interculturel, ça, ce sont des problèmes qui ont une actualité méditerranéenne. Alors Marseille peut s'en désintéresser complètement. Moi, je crois qu'au contraire, Marseille a une longueur d'avance par rapport au destin et au futur qui est celui de toutes les grandes métropoles d'Europe et notamment d'Europe du Nord. Et donc, quelque chose à dire sur ces sujets qui ne sont pas des sujets strictement économique ni strictement culturel, mais justement à l'intersection entre les questions fondamentales du développement et la dimension culturelle de ces questions de développement. Je voudrais dire aussi une chose pour sortir de la langue de bois, c'est que si Marseille a des difficultés à développer des projets de coopération euro-méditerranéen, notamment sur le terrain culturel, mais pas seulement, c'est que c'est difficile de coopérer avec certains des pays des Suds. C'est difficile. Je suis un producteur culturel depuis pas mal d'années. Comme Ferdinand Richard, je suis quelqu'un qui est toujours efforcé de monter des projets, et notamment des projets de collaboration, de coopération, d'échange, de soutien, d'aide aux cultures et aux artistes de ces pays. Ça n'est pas facile.
Bon. Alors, est-ce que c'est devenu plus difficile parce qu'en 1995 s'initiait le processus de Barcelone où naissait la notion d'euro-méditerranée? À cette époque-là, on était, semble-t-il, beaucoup plus optimiste qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est devenu plus difficile aujourd'hui et cette difficulté justifiant le pessimisme que l'on a senti là, dans cette intervention?
C'est déjà devenu plus difficile d'obtenir de nos services diplomatiques qu'ils accordent des visas aux artistes issus de ces pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est, alors là, je suis dans le quotidien du quotidien. La conviction que j'ai, puisque vous évoquez le processus de Barcelone et son échec qui est la résultante à la fois d'une négligence délibérée de l'Europe qui s'est tournée vers l'Est en priorité à cause de l'élargissement, la réunification allemande, l'aide prioritaire donc aux pays de l'Orient européen. Et puis des partenaires du Sud qui, eux non plus, n'ont pas tenu leurs engagements, notamment en termes d'évolution des structures politiques. Bien. Ce processus est un échec. La candidature de Marseille est aussi l'occasion pour l'Europe, justement, d'un geste fort de retour vers ces pays, vers ce territoire, et d'un geste culturel. Alors, l'Europe peut dire non. C'est pas notre priorité, ça ne nous intéresse pas, on fait une croix sur la Méditerranée, ça n'est plus dans la stratégie de construction de l'Europe. Ou bien l'Europe reprend en considération un minimum de responsabilité à l'égard de ses pays voisins, là, ne serait-ce que compte tenu de son histoire et encore une fois de l'actualité des enjeux d'aujourd'hui sur ces terrains des relations avec l'islam, etc. Et à ce moment-là, Marseille est une chance pour l'Europe. C'est pas seulement l'Europe qui est une chance pour Marseille. C'est Marseille qui est une chance pour l'Europe. Et puis je pense que profiter de cette occasion pour qu'ici, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, s'organise un vrai campus d'accueil, de reconnaissance, de découverte, de production, de représentation d'artistes inconnus venus de ces pays, qu'on ira chercher éventuellement nous-mêmes et individuellement, sans passer par les procédures, les processus, les programmes, les accords, etc. On ira les chercher, on leur offrira de venir travailler ici, de venir rencontrer ici des artistes du Nord, des Nords, de confronter leurs œuvres avec les leurs, de monter des projets communs. Faire une espèce de grand campus, de grande université des artistes, sinon des arts, de la Méditerranée, des Suds, et de rencontres, de vraies rencontres, non seulement avec les artistes, mais avec les publics de Marseille et du Nord. Bon, ça, c'est un projet qui a un sens, parce qu'il y a des artistes à découvrir, il y a des œuvres à découvrir, et puis il y a des artistes à aider. Et vous savez que c'est souvent pas grand-chose, l'aide. permettre à un artiste, qu'il soit musicien, qu'il soit dramaturge, qu'il soit metteur en scène, qu'il soit circassien, qu'il soit poète, qu'il soit écrivain, de venir travailler ici pendant 6 mois, pendant 1 an, avec l'assurance que son œuvre sera produite, qu'elle sera diffusée, qu'elle lui permettra de rencontrer d'autres artistes de son champ disciplinaire ou d'autres disciplines, c'est déjà beaucoup. Alors, quand Peraldi me dit « Marseille n'a plus aujourd'hui la légitimité pour nouer de véritables accords de coopération durables, forts, complètement construits avec ces pays de la Méditerranée », eh bien, je lui réponds « D'abord, on va voir. Et ensuite, qui mieux que Marseille en Méditerranée du Nord est capable de le faire ? Ça fait longtemps que Barcelone s'est retournée vers le Nord. Là, vous connaissez la vocation méditerranée de Barcelone ? 4% de population d'origine immigrée. Il y en a plus de 45% à Marseille. Barcelone n'est plus une ville cosmopolite. Marseille est la ville la plus cosmopolite, peut-être d'Europe, en tout cas de la Méditerranée. Bon, si ce n'est pas Marseille, pour les raisons que Peraldi semble indiquer, qui en Europe ? Naples, Athènes, Rome, Téhéran ? Marseille est mieux placée qu'aucune autre métropole européenne aujourd'hui des midi de l'Europe pour apporter un vrai soutien et une vraie occasion de rencontre et de dialogue aux artistes des Suds.
Ferdinand Richard, sur cette idée qu'au fond, ça n'est pas aller plein sud qui compte, mais c'est plutôt réarticuler un dialogue entre les villes du Nord et puis des villes du Sud. Toi, tu en as une pratique constante au travers des productions de l'AMI. Peut-être ton expérience concrète sur ce domaine.
Je voudrais revenir sur la question de l'échec. Alors, on parle de l'échec des accords de Barcelone. Moi, il y a un échec qui me désole depuis très longtemps, c'est l'échec de la mise en route des éléments de politique culturelle au niveau de l'Union européenne. Et contrairement à ce qui se dit, notamment dans cette région, je sais très bien que la non-construction de ces politiques culturelles européennes n'est pas le fait de la Commission européenne ou de l'Union européenne, mais bien des États membres, et en particulier de la France, qui considèrent que les politiques culturelles sont leur étendard, du domaine du prestige national, et qui, pour ces raisons, n'entendent pas du tout laisser les politiques culturelles aux mains d'éventuels fonctionnaires à Bruxelles. Donc c'est des positions un peu radicales qui expliquent pourquoi il n'y a pas d'argent pour la culture à l'Europe. Et à partir du moment où nous avons cette non-politique culturelle européenne, pourquoi s'étonner de ne pas avoir de politique culturelle au niveau des accords de Barcelone ? Donc je pense que le manque de volonté politique, il est d'abord là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas eu ce qu'il aurait dû se passer avec la culture dans les accords de Barcelone, c'est parce qu'il y a une antériorité au niveau du continent européen, de l'Union européenne, qui fait que les États membres sont les principaux freins au développement d'une politique culturelle européenne intelligente et aussi d'une politique de coopération culturelle avec les États extra-européens. Donc pourquoi aujourd'hui faire le procès d'une absence de politique culturelle au sein des accords de Barcelone ? Ça pose une première question. La deuxième question, c'est celle qui rejoint la candidature de Marseille. Ce qui m'intéresse, moi, dans la candidature de Marseille, c'est, je vais faire un petit peu de provocation, c'est puisque, au niveau national, nous ne sommes pas capables de mettre en place des expérimentations de coopération internationale, par exemple autour du bassin méditerranéen, mais pas seulement. Je trouve très intéressant que ce soit une collectivité territoriale, en l'occurrence Marseille, mais ça pourrait être une autre collectivité territoriale, qui expérimente, à travers l'occasion qui lui est donnée de cette candidature, un nouveau mode de fonctionnement en interne, politique culturelle territoriale, et en externe, politique de coopération, dans son voisinage, on va dire, relativement proche, des méthodes qui seront applicables au niveau du monde entier. Donc ce qui est intéressant, c'est pas tellement que Générique Vapeur aille faire des choses, et c'est pas contre Générique, bien entendu, contre Générique Vapeur que ma parole se dresse, que Générique Vapeur fasse des choses, de la coopération artistique au Maroc, c'est évidemment très important et il faut le soutenir. Mais derrière ça, ce qui est intéressant, c'est comment telle ou telle collectivité territoriale fait des choix dans ses budgets, fait des choix dans ses coopérations, soutient le développement là-bas, le développement culturel, échange sur les pratiques, échange sur la formation. Ça, c'est un enjeu qui peut être intéressant dans le cadre de cette candidature. Mais pas seulement dans le cadre de cette candidature, mais cette candidature peut mettre un focus sur cette question.
Comment articuler cela? Comment réussir cette articulation entre le nord de l'Europe et puis les pays du Grand Sud, les pays de l'Afrique? Est-ce qu'il y a une technique particulière ou des recettes particulières à mettre en œuvre? Ou peut-être des erreurs à éviter?
J'arrive pas à répondre à cette question sur un plan géographique. C'est-à-dire que ce discours entre nord-sud, sud-sud, etc., quand on est sur le terrain et qu'on est face à des artistes, c'est une question, je ne dirais pas qu'elle ne se pose pas, parce qu'évidemment les conditions ne sont pas les mêmes là-bas qu'ici, mais c'est une question qui n'est pas posée en termes de blocs géographiques. Par exemple, n'oublions pas par exemple que certaines très grandes villes du nord européen, comme Berlin, ont des coopérations bilatérales avec certains pays africains ou certains pays arabes depuis fort longtemps, et nous n'avons pas de leçons à donner à ces gens-là, sous le prétexte que nous sommes sur la rive sud et que nous saurions mieux qu'eux ce qu'il faut faire. Par exemple, dans le domaine du livre ou du cinéma, Berlin fait des choses depuis très longtemps avec l'Égypte. C'est pas à nous d'établir, sous prétexte que nous sommes sur la rive sud, d'être capable de penser que nous serions les seuls à pouvoir établir une méthodologie à usage pratique, etc. Moi, je me place pas du tout dans cette circonstance. Par contre, je pense que nous percevons rapidement un certain nombre de difficultés qui sont propres au sud et à la Méditerranée, parce que nous les avons chez nous. Je pense par exemple à tout le système clanique qui est quand même assez fort ici aussi, qui nous pose problème, j'allais dire, de manière presque quotidienne. Et donc évidemment, quand on rencontre ce même handicap dans d'autres pays, on est déjà, j'allais dire, d'une certaine manière, un petit peu habitué à essayer de contourner ce type de barrière.
Eh bien, à l'est d'Éden, de notre petit paradis, à l'est, l'Europe se construit, mais au-delà de l'est vient le Levant, l'Orient. On va s'y intéresser juste après ces quelques secondes de son que nous offre Badilla.
Dariya banchi dariya girvar dharana to nak dariya dariya girvar dharana to nak dariya banchi dariya girvar dharana to nak dharana banchi dariya girvar dharana to nak dharana banchi basi dariya girvar dharana to nak dariya banchi dari girvar dharana to nak dari banchi dariya girvar dhar to nak dariya banchi dariya girvar Chalata jamana nirthero, nirthero Chalata jamana nirthero Gavan ki sagi karan paal Chalata jamana nirthero Gavan ki sagi karan paal Lal lakadi kaad pakadi Lal lakadi kaad pakadi Chalo dhe na charan ko Basi dariya girvar dharan Do nak dariya bansi Girvar dharan to nak dari Bansi dariya girvar dharan Do nak dharan bansi
Marseille Sud-Est, dans la thématique Marseille 2013, dernière partie de cette émission, un entretien avec Bernard Latarger, qui, je le rappelle, coordonne le dossier de candidature de Marseille au label de capitale culturelle de l'Europe en 2013. On voit encore se dresser sur le littoral de la ville une porte de l'Orient. signe d'une histoire fort longue de commerce et d'industrie, en lien évidemment avec l'Orient, reste aussi d'un empire colonial dont la déconfiture a privé Marseille, il faut bien le dire, d'une grande part de son opulence. Aujourd'hui, le contexte de la mondialisation détermine de nouveaux rapports, de nouveaux rapports économiques, de nouveaux flux migratoires aussi. L'économie et les migrations, deux questions qui ne sont pas complètement hors sujet, je crois, dans notre discussion autour de ce projet Marseille-Provence 2013. Alors, peut-être une première question sur la présence et la visibilité des communautés qui composent Marseille, et peut-être particulièrement de celles qu'on ne voit peu aujourd'hui, celle par exemple en provenance de Chine ou celle en provenance du Kurdistan, ces communautés que l'on voit travailler, mais dont on a peu l'occasion d'apprécier la culture au travers de manifestations. Est-ce que ce projet leur accordera un peu de visibilité ?
Oui, la dimension moyenne-orientale et orientale sera présente dans le projet. Pour les raisons que vous dites, c'est-à-dire du fait de l'actualité nouvelle, des migrations et des relations de toute nature qui se développeront notamment avec les nouveaux venus de la mondialisation. Je pense à l'Inde et je pense à la Chine, et je sais que Marseille a depuis longtemps des relations privilégiées avec certaines villes comme Shanghai, avec lesquelles des projets culturels ont déjà été accomplis et seront développés. Il y a aussi vers le Moyen-Orient une richesse de création artistique aujourd'hui dans toutes les disciplines que nous connaissons très mal en Europe, et notamment très mal en France. J'observe par exemple que le prochain festival d'automne sera consacré pour partie à la présentation d'œuvres et d'artistes de ces pays, de la Syrie, de l'Irak et jusqu'à l'Iran. Donc à la fois pour rendre compte de la richesse, de la diversité de ces artistes et de la nécessité de mieux les connaître ici, de mieux les représenter, de mieux les faire dialoguer avec les artistes du Nord. Et puis, comme vous le disiez, du fait de la probabilité très forte des nouvelles migrations et de l'accélération de ces nouvelles migrations en provenance de l'Extrême-Orient, on citait l'Inde et la Chine. Ces deux pays, ces deux grandes cultures seront également présentes. Il y aura sans doute en 2013 beaucoup de Chinois à Marseille. Mais j'insiste, un des traits frappants de Marseille, c'est que la diversité de ces communautés ne se traduit pas par ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, c'est-à-dire la vie en autarcie, organisée avec des barrières, mais beaucoup plus dans un dialogue interculturel, dans une friction permanente, dans un mélange, dans un métissage. Cette année, vous savez, est l'année européenne du dialogue interculturel. Nous sommes candidats à faire labelliser par l'Europe des projets dès cette année sur ce thème. Nous serons très attachés à cela. Parmi quelques idées de manifestations et de thèmes qui ont été évoqués dans les travaux de préparation de la candidature au cours de ces dernières semaines, l'une d'entre elles m'a frappé, elle s'intitulait « La fête des autres ». Pas « Nous allons faire la fête », mais dans la tradition des grands événements populaires de Marseille, la Marseillaise, etc. On va intituler ça « La fête des autres ». On va imaginer, organiser des fêtes qui seront justement les fêtes de ces cultures qui sont présentes à Marseille, pas toujours très, très visibles, qui encore une fois dialoguent et dont il faudra en effet rendre compte.
Cette candidature de Marseille au label de capitale culturelle, il faut bien le dire, c'est un projet institutionnel. Aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette campagne électorale à l'occasion des présidentielles, la question de l'ouverture ou de la fermeture des frontières, de la régularisation des sans-papiers se pose sans cesse. Est-ce qu'il y a une articulation dans ce projet, dans la manière dont les participants l'ont abordé, entre institutionnel et d'un côté, et puis clandestinité de l'autre, ces flux migratoires qu'on ne pourra jamais éradiquer, hein, qui de toute façon, qu'on le veuille ou pas, seront toujours présents. Alors quelle place leur donner, quelle reconnaissance donner à ces hommes et ces femmes?
Le thème de l'exil, de l'accueil et des migrations, mais les migrations justement sur ce terrain de l'accueil, de la tradition d'accueil de Marseille. On vient à Marseille parce que Marseille est une ville accueillante. Ce thème sera traité dans la candidature. Il ne s'agira exactement du contraire de la fermeture. La fermeture, la défense... Certaines villes européennes du bassin méditerranéen ont fait le choix, non pas de la fermeture, mais en tout cas de la réduction à minima de la part de populations d'origine immigrée parmi leur population. De loin, Marseille est la ville du bassin méditerranéen dans laquelle le pourcentage de population d'origine immigrée récente est le plus important. Eh bien, cette tradition d'accueil sera présente dans la candidature. On en fera même un thème de programme sous forme d'exposition, de spectacle, de commande à des artistes.
Abordons un peu, si vous le voulez bien, la question de l'économie de ce projet, de son financement. Bien sûr, une part de financement public, de financement européen, les collectivités locales, l'État sans doute, mais peut-être aussi des contributions privées. Il y a autour de Marseille un certain nombre d'industries, dont certaines sont d'ailleurs très fortement en lien avec l'Orient et le Moyen-Orient. Je pense notamment dans le domaine de l'acier, dans le golfe de Fos-sur-Mer. Est-ce que ces grands groupes vont participer à l'économie de ce projet?
Oui, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux qui est de réunir au moins 15% du budget général de la candidature auprès de mécènes et de partenaires privés du monde économique. Bien sûr, ces partenaires privés, on les trouvera principalement dans le territoire de Marseille-Provence, mais on les trouvera aussi au niveau national et international. De ce point de vue, j'ai été très, très heureusement surpris de la mobilisation de l'intérêt et de la participation très active du monde économique marseillais aux premières étapes de préparation de cette candidature. Vous savez que le président de l'association qui porte la candidature est Jacques Pfister, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est dire d'une part leur implication dans ce projet et dire aussi que nous sommes très attachés à l'articulation entre l'investissement, l'effort culturel dans toutes ces facettes et le développement global, économique, social, urbain du territoire, de ce territoire. Il y a aussi à Marseille une forte tradition de ce point de vue, de la place de la culture dans la régénération, dans la transformation de la ville. Et donc, nous avons d'ores et déjà sollicité le monde économique, nous avons un projet de charte de partenariat avec les acteurs du monde économique, non seulement pour qu'ils puissent participer à terme au financement du projet, mais pour qu'ils en soient partie prenante en termes même de conception et de promotion.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Pour conclure, je vous livre une réflexion. Vous le savez, on a interrogé quelques-unes des villes concurrentes de Marseille pour ce label de capitale culturelle européenne, dont Lyon, bien sûr, qui est, vous l'imaginez sans doute, la favorite. Alors on a demandé à leurs responsables culturels s'il y avait une faiblesse dans leur programme et leurs propositions, et ils nous ont répondu que peut-être leur faiblesse, c'était d'avoir trop de points forts. Alors est-ce que de manière symétrique, on pourrait dire que, quelque part, la force de Marseille, c'est d'avoir des faiblesses, de les reconnaître et de reconnaître qu'elle a besoin de ce statut de capitale culturelle européenne pour continuer et parfaire son développement culturel?
Vous avez tout à fait raison. Dès le début de nos travaux, nous l'avons dit et nous avons partagé cette attitude et cette conviction avec l'ensemble des acteurs qui participent à la préparation du projet. Nous avons dit il faut avoir un état sans complaisance de nos faiblesses. Il faut les exposer et il faut montrer en quoi la candidature, en quoi ce projet est justement un facteur de progrès par rapport à ses faiblesses. L'Union européenne n'accordera pas forcément le label de capitale à la ville qui en a le moins besoin, à la ville qui a déjà, aux villes qui ont déjà tout, la puissance, la richesse. Si l'Europe a choisi Liverpool en Grande-Bretagne, elle n'a pas choisi la ville la plus puissante, la plus riche, la plus moderne. Elle a choisi une ville en difficulté depuis des années et qui se sert justement, au meilleur sens du terme, servir de la culture pour son développement. Le développement de son économie, le développement de sa vie sociale, la reconversion de ses quartiers portuaires, de ses quartiers en difficulté. Donc, nous connaissons nos faiblesses, nous les exposerons dans le dossier de candidature, nous exposerons comment nous comptons nous servir de ce projet pour contribuer justement à la réduction de ces faiblesses.
Merci Bernard Latarget. Vous écoutiez Marseille Sud-Est dans la thématique Marseille 2013 consacrée à la candidature de Marseille au label de capitale culturelle de l'Europe en 2013. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre Bernard Latarget, coordinateur du dossier de candidature, Bertrand Colette, membre de l'association Marseille-Provence 2013, Ferdinand Richard, directeur de l'AMI, et Michel Peraldi, sociologue. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette candidature, vous pouvez consulter le site officiel www.marseille-provence.fr et un site officieux www.marseille2013.org. Et trouver dans le journal de la Friche, disponible gratuitement à la Friche Belle de Mai, un dossier complet réalisé par Fred Kahn, repris sur le site de la Friche www.lafriche.org.